Ham. Un paysage sublime sur lequel on appose un filtre couleur saturée ou un autre effet Polaroid, un selfie, un hashtag, bienvenue sur Instagram, Insta pour les intimes, qui fête ses 10 ans aujourd'hui, Marie Van Cutsem.
Oui, Instagram est né le 6 octobre 2010 dans la tête de deux Américains, Kevin Systrom et Mike Krieger. L'idée de base, c'est simplement un réseau de partage de photos avec un petit plus, ces fameux filtres qui permettent de rendre n'importe quelle image un peu correcte. Il faut dire qu'il y a 10 ans, souvenez-vous François, les photos prises avec un smartphone étaient bien moins qualitatives qu'aujourd'hui.
Surtout quand c'est moi qui les prenais.
Et donc tout à coup, ces outils de retouche deviennent accessibles et sont hyper faciles à manier. Le succès est immédiat, plus d'un million d'utilisateurs en quelques mois, 10 millions en un an. De nombreux influenceurs se lancent alors sur Instagram. Ils parlent mode, tourisme, nourriture, le porn food, hein, ces photos de toast à l'avocat ou de café latté. Instagram a donc un seul mot d'ordre, faire rêver. Mais problème, comme beaucoup de réseaux sociaux à leur début, Insta ne rapporte rien. Nicolas Van Zeebroeck est professeur d'économie numérique à Solvay.
Ils avaient créé quelque chose avec beaucoup de succès, mais dont seuls les influenceurs, en réalité, vivaient réellement sur le dos de la plateforme. Et puis Facebook, en prenant possession de la plateforme, est arrivé avec ses modèles basés sur la publicité. Dans un premier temps, on a fait des deals avec des marques pour utiliser la plateforme dans une optique vraiment marketing. Et ça, c'était la première vraie source revenue d'Instagram.
Instagram commence donc par des contrats avec des annonceurs lorsqu'il est racheté par Facebook, puis un cocktail bien connu entre dans le jeu, un deal implicite, entre guillemets, entre l'utilisateur et le réseau. L'utilisateur reçoit du divertissement, en échange, il donne ses données et du temps d'attention. La combinaison des deux est importante.
Les annonceurs, en fait, payent cher pour placer leur contenu sur une plateforme, sur un média quel qu'il soit, mais ils sont prêts à payer d'autant plus cher qu'ils savent qu'ils payent pour une attention qui est directement utile. On peut leur garantir que leur contenu va être vu en priorité, si ce n'est exclusivement, par des gens qui vont y être sensibles.
Et la grande force d'Instagram, Marie, c'est d'avoir intégré rapidement une série de fonctionnalités qui ont beaucoup plu aux utilisateurs.
Oui, parce qu'en soi, la seule vraie innovation d'Instagram, c'était ces fameux filtres photos du début. Après, le réseau a juste senti ce que les utilisateurs aimaient sur les autres plateformes. C'est ainsi qu'on a vu débarquer en 2016 les stories, des publications qui disparaissent après 24 heures et qui viennent de Snapchat à la base. Les vidéos courtes ont débarqué aussi, comme sur TikTok, les vidéos long format IGTV, comme sur YouTube, etc.
Est-ce qu'on peut dire qu'Instagram a modifié nos comportements, Marie ?
Mais ça a en tout cas favorisé certaines tendances. Le selfie, par exemple, oui. Le selfie retouché et tout le rapport à sa propre image que cela suppose. En matière de tourisme, ça a fait exploser la fréquentation de certains endroits. Je pense par exemple à la rue Crémieux à Paris, une petite rue typique aux façades colorées où des dizaines de personnes viennent désormais chaque jour se prendre en photo au grand désespoir des habitants. Côté nourriture, certains photographient leur assiette au restaurant ou tout ce qu'ils préparent à la maison. Vous admettrez que vous ne faisiez jamais cela avant. Alors, ces contenus sont toujours là sur Instagram. Ils ont fait la popularité du réseau, sa dose de rêve. Mais on observe un glissement depuis quelques temps. Après le marketing, les annonceurs, ce sont les mouvements militants qui s'emparent du réseau. On retrouve Nicolas Van Zeebroeck.
C'est assez inévitable quand un média devient victime de son succès, qu'il glisse petit à petit vers des contenus plus militants. Ça, c'est une chose. Mais ça ajoute à cela qu'évidemment, comme Instagram avait cette image de média très, très glamour lifestyle, mais avec des photos comment photoshopées, ils ont été un peu, je dirais, le fer de lance de ce qui est aujourd'hui dénoncé, qui est l'image parfaite, notamment de la femme. Et donc, évidemment, les combats MeToo et autres ont trouvé là un terrain de jeu assez naturel.
Et depuis MeToo, on a pu observer aussi que le mouvement Black Lives Matter ou récemment la mobilisation pour la minorité ouïghour ont trouvé un écho particulier sur ce réseau.
Voilà, et puis il y a ceux et celles qui font des mix étonnants sur Instagram.
Oui, comme Kylie Jenner.
So thank you guys for all your support. I cannot wait. You can shop online.
Alors c'est une star de la télé réalité shop américaine. Online, oui. Voilà, la cadette du club Kardashian, 197 millions d'abonnés. Son profil Instagram, c'est une déferlante de photos sexy, de fringues, de piscines. Et il y a quelques jours, elle poste deux selfies en bikini très avantageux. Et juste en dessous de ceux-ci, en légende, elle appelle en fait ses followers à aller s'inscrire pour l'élection présidentielle américaine sur le site dédié du gouvernement fédéral. Et oui, elle les encourage à aller voter. Eh bien, dans la foulée, sur le site en question, on a observé dans la foulée de ce poste, un trafic 1500% supérieur à d'habitude.
Ah, avec 197 millions d'abonnés, elle a une force de frappe assez impressionnante.
Exactement, et elle l'utilise donc à des fins politiques.
Et elle l'appelle à voter pour qui ?
Alors, elle n'a pas précisé.
Ah oui, donc elle dit voter, mais elle ne dit pas pour qui.
Non.
peut-être.
J'ai un léger doute sur.
Oui, voilà. Sur celui qui se présente pour un deuxième mandat, si je comprends bien.
Je sais pas.
Bon, bref, on ira vérifier tout cela. Merci beaucoup, Marie-Van Kutsem, de nous avoir résumé à l'histoire d'Instagram, qui a beaucoup changé déjà en 10 ans. Instagram qui souffle ses 10 bougies aujourd'hui. On va.